terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Il y a une dizaine de jours, c'était le 12 mars exactement, après une réunion extraordinaire des membres de la CARICOM, l'Organisation internationale régionale caribéenne, Ariel Henry, premier ministre d'Haïti, a présenté sa démission. Une démission de plus en plus réclamée par la population, il faut le dire, mais aussi par certains responsables politiques, notamment au niveau de la communauté internationale. Et je pense ici aux États-Unis et au Canada. Alors, un conseil de transition, dit conseil présidentiel, doit se mettre normalement en place dans les prochains 18 mois, tout dépendant de la situation telle qu'elle va évoluer. Et cette démission d'Ariel Henry, bonjour Michel. Elle rabat un peu les cartes hein, et ça remet un peu les choses en perspective. Essayons un peu de dépatouiller tout ça. Ouais.
Tout à fait. Donc comme tu l'as mentionné, Cyril, Ariel Henry nous a présenté sa démission.
On peut même parler de démission contrainte lundi 12 mars, provoquant donc la surprise, mais aussi nous amenant à nous interroger sur plusieurs points. Donc, vous n'êtes pas insensible à l'actualité de ces derniers jours. On assiste à une succession d'événements. Pour rappel, Ariel Henry est en déplacement au Kenya pour finaliser et signer les accords concernant la mission sécurité internationale. Et il se retrouve donc sur le chemin du retour dans l'incapacité d'atterrir sur le tarmac en Haïti. En effet, il y a plusieurs gangs qui tirent à vue pour empêcher donc le retour physique d'Ariel Henry sur le territoire. Et entre-temps, vous avez plusieurs prisonniers qui se sont échappés dans la nuit du 2 au 3 mars, amenant le gouvernement à déclarer l'état d'urgence et à imposer un couvre-feu dans l'espoir donc de ramener l'ordre et le calme à Port-au-Prince. Et dans ce laps de temps, et je l'ai évoqué lors de ma dernière chronique le mois dernier, Haïti a remboursé 500 millions de dollars US de dettes au Venezuela dans l'affaire Petro-Caribe. Mmh. Je dis bien 500 millions de dollars US.
Beaucoup d'argent.
Et là, je cite des événements qui ont fait la une des journaux. Vous l'aurez compris, il n'y a pas un jour où un événement ne vient chambouler le quotidien des Haïtiens et Haïtiennes. Mmh.
Donc ça fait que aujourd'hui ta chronique va un peu porter sur voilà Haïti, on va dire un peu sous le prisme géopolitique.
Hein. Effectivement. Mmh. Et pour ce faire, j'ai pris le temps de revenir sur ce qui s'est dit dans la presse ces dernières semaines. Mmh. Et j'ai notamment écouté votre intervention, Monsieur Boiron, dimanche dernier.
On signale que Frédéric Boiron est avec nous en studio.
C'est ça, dimanche dernier à l'émission Tout le monde en parle. Et vous étiez en compagnie notamment de Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada en Haïti. Et vous avez mis l'emphase sur la présence des gangs qui, en fait, ne datent pas d'hier. Vous parlez plutôt de milices, donc qui datent de plusieurs années, notamment sous les régimes Duvalier père et fils, mais aussi et surtout sur le rôle de ces milices dans le maintien ou la dissolution du pouvoir en place. Mmh. Et en écoutant votre intervention, je me rends compte que c'est tout un système politique qui est vraiment mis en place depuis plusieurs années. Vous évoquez notamment la notion de guerre civile de faible intensité. J'aimerais d'ailleurs que vous puissiez revenir sur ce terme qui a attiré mon attention. Mais vous dites aussi qu'il est important de lier l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021 et la présence de ces milices, en fait, qui n'est pas à prendre à la légère puisque ces mêmes milices contrôlent actuellement la perle des Antilles. Pour reprendre les termes du premier ministre jamaïcain qui parle d'ailleurs officiellement de guerre civile en Haïti. Alors, comme je le disais tantôt, la communauté internationale a favorisé notamment la sortie d'Henry et on se rend compte à nouveau que cette présence internationale dans l'avenir politique d'Haïti ne date pas d'hier non plus. Mmh. Une présence internationale qui est décriée depuis de nombreuses décennies à cause des problèmes survenus à l'époque. Cyril, rappelle-toi notamment l'épidémie de choléra qui a été déclenchée par les casques bleus de la MINUSTAH présent après le tremblement de terre en 2010, sans compter la dénonciation de faits pour agression sexuelle. Et d'ailleurs, Monsieur Boiron, vous avez dit aussi dimanche à l'émission Tout le monde en parle qu'il y a il y a différents cas d'agression sexuelle commis par les hauts gradés de la police kényane et a été qualifié de crime contre l'humanité. Donc, on parle de nouveau d'un contingent kényan qui est censé se rendre en Haïti pour établir l'ordre et la sécurité. Mmh. Tout ceci me fait dire, et c'est mon point de vue, que cette présence peut paraître de type néocolonial sur le territoire haïtien, et ce malgré le caractère indépendant du pays depuis son accession à l'indépendance en 1804. Je parle notamment de l'embargo américain, notamment sur la production de riz, ou encore tout simplement qui doit diriger le pays. Mmh. Et ce sont des erreurs du passé à éviter, comme l'a souligné notamment Monsieur Franz Voltaire, qui est historien d'origine haïtienne et président du syndicat, puisqu'on a l'impression que le pays est encore sous protectorat. Et lorsque je vous parle de gestion de type néocolonial et d'ingérence dans la vie publique et politique du pays, c'est notamment l'existence du core group, donc qui est composé de l'Allemagne, du Brésil, du Canada, la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Union européenne et des émissaires de l'ONU, qui avaient étrangement soutenu la nomination d'Ariel Henry pour diriger le pays en 2021.
Mmh. Mais puisque tu parles de la communauté internationale, là, on doit quand même se poser une question. Que dire de la place et même la voix du Canada? Parce qu'on sait quand même que le Canada et Haïti ont de longues relations. Hein. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, c'est vrai que la place du Canada dans le déroulement de ce conflit est à analyser. Et on voit qu'il n'y a pas de prise de position claire. Et d'ailleurs, il a été demandé, notamment par Biden, que le Canada puisse conduire cette fameuse mission sécurité internationale. Trudeau, lui, il préfère s'engager sur le plan financier. Donc, il a d'ailleurs alloué une aide de 100 millions de dollars, donc en évoquant la volonté que, je cite, « le peuple haïtien reste maître de son destin ». Donc, il a dit ça en 2003. Et d'ailleurs, vous avez évoqué, Monsieur Boiron, dimanche dernier, que le Canada avait proposé également de former la police haïtienne sur le long terme, en mettant un terme à la corruption, notamment au niveau des forces de l'ordre et au niveau de la classe politique, et aussi de donner une subvention salariale aux policiers, puisque vous avez évoqué aussi qu'un policier touche en moyenne 250 dollars par mois, qui est très peu, contrairement aux chefs des milices qui gagnent 2 à 3 fois plus. Aussi, et c'était un point intéressant dans votre intervention, vous avez dénoncé l'absence de questions par les partis d'opposition à Ottawa sur le rôle du Canada en Haïti. Et d'ailleurs, la communauté haïtienne demande vraiment un engagement accru, donc vraiment un leadership canadien dans la gestion de la crise haïtienne.
Bon, alors ça, c'est le Canada politique, on va le dire comme ça, parti au gouvernement, puis l'opposition. On parle de relations entre le Canada et Haïti. Et la diaspora dans tout ça?
Alors, effectivement, on les vote très peu, mais la diaspora a un rôle à jouer. Et c'est ce que rappelle Stéphane Martelly, qui est professeur de littérature à l'Université de Sherbrooke. Elle est écrivaine et fondatrice de la collection Les Martials aux éditions Remue-Ménage. Et elle publie une tribune le 18 mars dernier pour le journal Le Devoir. Pour elle, je cite, « Il est temps ici de prendre un moment, une parole depuis la diaspora qui n'est certes pas à nous. Rappeler un moment l'importance de ce lieu, Haïti, dont on nous dit sans arrêt les défaits et les effondrements possibles et l'envisager au contraire comme le lieu de notre humanité et notre espoir. » Fin de citation. Elle poursuit en disant, ouvrez les guillemets, « C'est aux Haïtiens et Haïtiennes seuls, du moins à celles et ceux qui comprennent encore Haïti, sans la vendre aux plus offrants ou au moins carnassiers, que revient de décider le destin de la nation, qu'il et elle continue à préserver et à bâtir envers et contre tous. » Fin de citation. On aura compris, une diaspora dont la voix et son regard est tout aussi important dans la gestion et résolution du conflit.
Une fois que tu as dit ça, là, toi maintenant, Michel, tu penses quoi? Tu es quand même notre...
Bien sûr.
Toi, tu en penses quoi, Michel?
Alors, je dirais tout simplement, et toujours me basons notamment sur les interventions de Monsieur Boiron et notamment celle de Gilles Rivard, qui explique que pour résoudre le problème, il faudrait commencer quelque part. Et pour lui, si ce contingent de forces kenyanes pouvait résoudre l'insécurité, en gros, ce serait un point de départ. Toutefois... Et en y réfléchissant, la situation que connaît Haïti n'est pas arrivée de manière aussi soudaine. Je l'ai dit tantôt, il convient de regarder et analyser la situation avec une loupe décoloniale. Donc, il faut comprendre réellement quels sont les intérêts de la communauté internationale à intervenir systématiquement dans la gestion politique et administrative du pays. Monsieur Gilles Rivard, notamment en évoquant l'absence du leadership du Canada dans le conflit haïtien, parlait, je cite, d'une certaine fatigue, tout en soulignant que l'agenda politique international, à savoir la guerre en Ukraine ou encore le conflit à Gaza, faisait office de priorité pour le gouvernement. D'ailleurs, en entendant ces mots, j'ai sursauté. Et je me suis posé tout simplement la question, est-ce que Haïti a été une seule fois la priorité de la gouvernance internationale pour rétablir une fois pour toutes la sécurité internationale, l'ordre et la paix? Ce manque d'intérêt ne revient-il pas à renforcer cette gestion néocoloniale sans fin, empêchant les acteurs politiques de la région de se prendre en main et de décider par et pour le pays? J'irai même plus loin. Est-ce que le conflit sociopolitique qui dure depuis des années dans le pays le plus pauvre de la région Caraïbe ne ferait-il pas le bonheur de certains? Je terminerai en citant de nouveau Stéphane Martelly. Ouvrez les guillemets. Nous porterons nous-mêmes la lourde responsabilité de cet espoir qui nous fait tenir debout, aux côtés de celles et ceux qu'on ne cesse d'écraser, mais qui, de tout temps et encore, construisent, gouverneurs de la rosée et femmes fondées par elles-mêmes, comme les empires qu'elles ont défaits, des passages profonds et nombreux, racines souterraines de l'eau fraîche vers la vie.
Merci Michel.
Merci.
Situation comme telle, finir ça sous cette forme poétique, ça donne un peu espoir. Reste avec moi, je te propose qu'on passe un peu Frédéric Boiron sous le gris. Là. On ne le présente plus, c'est un sociologue bien reconnu dans la société, plus besoin de le présenter. Première chose, Frédéric, bonjour d'abord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à cette contextualisation que vient de faire Michel?
D'abord, je félicite Michel. D'accord, c'est un très, très beau travail. Que cette chronique est vraiment exceptionnellement bien faite. Je pense que c'est très bien structuré. La pensée est bien structurée. Puis oui, je pense que le tour est bien fait. Bravo.
Mmh.
Bravo.
Merci.
Ça, c'est la première chose. Essentiellement, je pense que il y a tellement de choses à décortiquer dans ce qui se passe actuellement dans la région et sur un des éléments que Michel a apporté, à savoir comment est-ce que la crise haïtienne se situe justement dans la région Caraïbe. Souvent, on regarde seulement ce qui se passe en Haïti, mais on perd de vue que la crise haïtienne a un impact particulièrement sur la démographie de la région. Il y a beaucoup de gens qui quittent le pays. Et ce n'est plus nécessairement les mêmes personnes qui quittaient. Donc, il y a des gens, je dirais, c'était des gens du prolétariat qui quittaient pour la région, Bahamas, République dominicaine, etc. République dominicaine, c'est assez particulier.
C'est assez particulier.
Aussi des gens de niveau élevé qui vont aller étudier en République dominicaine. Mais essentiellement, c'est le prolétariat qui partait. Maintenant, avec la crise sécuritaire qui a un impact sur la crise sociale, la crise économique, les gens qui étaient de la classe moyenne basse, je dirais, deviennent plus pauvres maintenant. Donc, cette couche sociale aussi va quitter le pays. Maintenant, pour les... Et je l'ai dit il y a peut-être un an ou deux à peu près, quand on a livré des blindés en Haïti. En même temps, le chemin Roxham était encore ouvert. Puis je disais, mais la crise haïtienne, le bout final de cette crise-là, c'est sur le nombre de demandeurs d'asile qui traversent le chemin Roxham ou qui rentrent au Québec et ailleurs. Donc, ça nous concerne. Mmh. C'est pas seulement une crise haïtienne en soi, et puis on la regarde, et puis qu'on se dit, comme Gilles Rivard l'a dit, on a dépensé 1 million par semaine, peut-être qu'on en fait trop. Mais si on n'avait pas dépensé 1 million par semaine, il y aurait eu combien de demandeurs d'asile? Et ça aurait coûté combien de trouver des places en garderie, des logements, des classes d'école, etc.? Un revenu minimum garanti pour les gens. Donc, le million de dollars dont parlait Gilles Rivard, qui est dépensé pour Haïti, pas en Haïti, pour Haïti, parce que 90% de ce million de dollars est
important, ce que tu dis,
dans l'économie canadienne. Mm-hmm. D'accord? Moi, j'ai dirigé Action contre la faim, qui est la troisième plus grosse ONG au monde, et c'était clair que cette organisation-là, moi, j'ai fait la démonstration que l'argent que recevait Action contre la faim, c'est 94% de la somme qui ne quitte pas le Canada. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie des biens achetés au Canada, en Haïti, et on envoie des ressources humaines canadiennes pour aller livrer des services et des biens. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue parce que souvent, on pense qu'il y a une aide qui est donnée à Haïti, mais non, c'est une dépense qui est faite sur Haïti pour préserver le Canada, le Québec, d'un ensemble de problématiques, entre autres au niveau de la démographie.
Ça c'est un des volets donc, que tu mets en avant. Toutefois, quand les gens écoutent, Gilles Rivard parlait, et Michel l'a rappelé, il a sorti cette expression, une forme de fatigue.
Ouais.
Bon, moi, chaque fois que j'entends ce mot-là, nous sommes fatigués, je dis que si vous êtes fatigué, qu'est-ce que les gens qui vivent souvent ces drames-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent? La question a le mérite d'être naïve, mais pour moi, elle est importante. Qu'est-ce qui cloche en Haïti?
En fait, moi, j'ai toujours dit que les Haïtiens ont été se coucher le 6 février 86 à 11 heures le soir en étant convaincus d'être dans une dictature. Ils se sont réveillés le lendemain matin, puis on leur a dit « Vous êtes dans une démocratie ». Et puis, entre-temps, depuis, on n'a rien fait. On a juste dit qu'on est dans une démocratie. Il n'y a pas eu d'éducation à la démocratie, il n'y a pas eu une explication sur qu'est-ce que c'est la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas seulement
rappel,
le vote.
Pour rappel, le 6 février 86, c'est
le départ de
la
Duvalier.
Chute de Duvalier.
Ça, Duvalier part. Mmh. Et puis là, ben, il faut mettre le pays en marche. Et on ne sait pas trop comment rentrer là-dedans. 30 ans de dictature, c'est une éternité pour installer une culture. La démocratie, c'est pas une structure politique. Hein. Mmh. C'est la dernière chose qu'on regarde quand on regarde une démocratie. La structure politique, c'est un détail. Ce qui est important, c'est la culture politique dans le pays. Or, cette culture-là, on ne l'a jamais adressée. On n'a jamais adressé avec le citoyen ordinaire c'est quoi être dans une démocratie, mais surtout avec la classe politique. La classe politique qu'on voit actuellement en Haïti, ce sont des vieux hommes déphasés, dépassés, déconnectés, limoneux, qui n'ont jamais connu rien d'autre que le pouvoir dictatorial. Et ils le reproduisent. Et tant qu'on n'aura pas une nouvelle classe politique jeune, de femmes, il n'y a pas de femmes en politique en Haïti.
Culture politique, question de culture politique.
Exact. Il n'y a pas de femmes. C'est une job d'hommes, de vieux hommes. Ariel Henry a quoi, 74 ans, tu vois? Et tous ceux qui vont être sur le conseil présidentiel, etc., il y avait une jeune dame de 34 ans, puis je viens de voir dans les nouvelles que probablement qu'on l'a exclue parce qu'elle a 34 ans.
Je sais que ma question est provocatrice ou provocative, peu importe. Comment il s'appelle, Martelly, il était jeune, Frédéric Bouron.
Oui, mais Martelly, c'est un produit du régime. Martelly, en fait, avec le PHTK, c'est un parti néo-duvaliériste. Parce que ce sont des gens qui ont fait leur jeunesse. Parce qu'il y avait une jeunesse sous la dictature, il y avait une culture, il y avait cette jeunesse. Martelly, c'est la génération de Jean-Claude Duvalier, d'accord? C'est cette génération qui a profité du système. Donc, ils veulent maintenir ce système-là qui avantage une certaine couche de la société. Mais, oui, je vois des jeunes, mais encore une fois, Cyril, ce que je dis, Michel, ce que je dis... Une culture, ça se transmet. Mmh. Même si tu as des gens dans... je regarde, par exemple, Claude Joseph, qui est probablement dans la quarantaine, Martelly, fin cinquantaine, etc. Mais ce sont des gens qui ont vécu dans cette culture-là. Ils sont nés dedans. Donc, ils ne sont pas capables de produire autre chose que cette culture dictatoriale.
Mmh. Mais la culture... tu interviens, oui, quand tu veux, Michel. La culture politique dont tu parles, une culture aussi, elle ne s'établit pas comme ça sous un coup de baguette magique. Ça prend du temps. Mais pendant tout ce temps-là, la population vit des choses impossibles. Mmh.
Moi, je prends souvent l'exemple de la Libye, qui a connu à peu près une dictature de la même durée que celle des Duvaliers. Une quarantaine d'années, dans leur cas, Haïti, 30 ans. Et l'état des lieux en Libye aujourd'hui ressemble parfaitement à ce qui se vit en Haïti. Parfaitement. Il y a des gangs, il y a des luttes de pouvoir, c'est clanique, c'est chacun se partage un petit morceau du pays. Je regarde ce qui s'est passé en Somalie, 92-94... on se rappelle des images, on avait envoyé des marines, etc. Puis ça s'est terminé en catastrophe parce que, justement, on avait renversé un régime et puis les gangs ont pris le pouvoir à ce moment-là. Et ça prend des années de faire ça, d'accord? Ça prend des années de faire ça. En réalité, je veux dire que la situation haïtienne n'est pas uniquement haïtienne, c'est la situation qu'on retrouve à plusieurs reprises quand on sort d'une dictature sans préparer la population, sans préparer la classe politique à traverser de l'autre côté comme structure ou comme culture de gestion d'un pays. Et même, on a eu une élection en Haïti où probablement la première élection qui n'était pas contestée, celle de Jean-Bertrand Aristide, mais Jean-Bertrand Aristide s'est entouré de gangs. On les appelait les chimères. C'est la même chose qu'a fait le PHTK de Michel Martelly, d'avoir aussi des gangs actuellement qui, justement, il en avait besoin pour rester au pouvoir. Alors, Duvalier, lui, avait les tontons Macoutes parce qu'il avait peur de l'armée haïtienne. Pourquoi il avait peur de l'armée haïtienne? L'armée haïtienne, c'est un sous-produit de l'armée américaine. Ils ont tous été formés aux États-Unis. Donc, les hauts gradés de l'armée haïtienne à l'époque étaient formés dans, je ne me rappelle plus, ça s'appelle les Hemispheric School, quelque chose comme ça, qu'on appelait l'école des assassins. Vous pouvez le trouver, là, ça s'appelle l'école des assassins. On formait pas seulement pour Haïti, mais pratiquement pour toute l'Amérique latine, c'était la doctrine Monroe, on a formé des militaires pour envoyer pour dans tuer. Ces pays-là, pour tuer. Mm-hmm. Pour torturer, tuer, faire disparaître, etc., on les a formés pour ça, d'accord? Donc, Duvalier savait ça, et la seule façon d'éviter que l'armée le renverse, parce que l'armée est au service des Américains, si t'envoies tes enfants étudier aux États-Unis, Cyril, surveille-les, d'accord? C'est à peu près ça. Okay. Alors, il s'est donné un corps qui s'appelait les volontaires de la sécurité nationale, les VSN. Les VSN, donc c'était des gens qui étaient au départ des volontaires et donc des bénévoles pour protéger le régime. En échange, ben, ils avaient le droit de tuer, ils avaient le droit de violer, de voler, etc. Et puis il les a formalisés en milice avec un uniforme, on l'appelait le gros bleu. Donc, des jeans de la tête aux pieds, avec un foulard rouge au cou. Et puis, c'est ce qu'on connaît ici comme étant les tontons Macoutes. Mmh. Donc, ce qu'on voit actuellement en Haïti, c'est l'équivalent des tontons Macoutes que le régime en place a mis là. Mmh.
Vous avez parlé de la notion de démocratie. C'est quelque chose qui revient souvent, notamment lorsque je fais mes recherches dans le cadre de ma thèse. Je me posais la question, en fait, quel type de démocratie? Parce qu'on s'entend que la démocratie occidentale ou centrée, elle est relativement imposée, notamment dans certains pays en Afrique. Est-ce que c'est ce type de démocratie que l'on voulait instaurer en Haïti? Et en évacuant totalement, justement, la culture, les us et coutumes, et ça peut justement entraîner par la suite des problèmes sur le long terme.
Oui. En fait, moi, j'écris 3 livres sur la démocratie. Et si j'ai peut-être un petit regret, parce que c'est écrit. Après, on réfléchit, puis on dit probablement que j'aurais écrit ça différemment. Je n'aurais pas écrit sur la démocratie. Je l'aurais écrit sur la démocratie représentative. C'est-à-dire que essentiellement, ce que c'est que la démocratie, c'est de choisir des gens pour nous représenter. C'est pour ça qu'on a la Chambre des représentants aux États-Unis. On choisit des gens pour nous représenter, on choisit des gens pour faire des décisions à notre place parce qu'on ne peut pas tous participer à la décision. Sinon, on ferait des référendums tous les jours. D'accord? Donc, cette démocratie représentative, pour moi, c'est elle qu'on doit cristalliser. Maintenant, pour qu'elle fonctionne, il faut que les gens qui sont choisis respectent, il faut qu'il y ait des critères établis, même aux États-Unis, pour devenir président aux États-Unis, il faut avoir 35 ans, il faut ne pas avoir fait faillite, être citoyen américain, c'est à peu près tout. Mm-hmm. Ah, mais évidemment, si possible, pas avoir un dossier criminel, mais c'est à peu près tout. D'accord? Donc, et même à ça, aux États-Unis, j'ai fait des recherches pour trouver qu'il y avait des gens qui avaient été élus aux États-Unis en étant en prison. D'accord? Donc, ça veut dire que on n'est pas arrivé dans cette culture démocratique de dire, ben, tiens, il faut qu'on révise pour voir qui nous représente particulièrement dans un pays où on a à peu près, 60-70% d'analphabètes dans un pays, et on se retrouve avec des gens qui sont élus députés qui ne savent pas lire. Parce que le plus grand défaut de la démocratie, c'est qu'elle permet d'élire le plus populaire, même s'il est incompétent.
Absolument.
Et c'est ce qui arrive dans des pays comme Haïti, parce que vous regarderez qu'on a beaucoup d'artistes dans la classe politique.
Oui.
Des chanteurs, des acteurs, des rappeurs, etc. Don Cato, Michel Martelly, Jacques Sauveur, Jean. Non, mais...
Mais donc je ris parce que les gens n'ont pas l'image, donc ils ne voient pas. Mais je veux, il nous reste à peine 5 minutes. Je veux qu'on termine avec ça, Frédéric. À l'heure actuelle, il y a une situation, il y a quelqu'un qui contrôle on va dire grosso modo le pays, mais on va surtout dire Port-au-Prince, c'est comment le chef de gang, là, Barbecue. Une classe politique qui est un peu, aujourd'hui, oui, perdue, complètement perdue, disons les mots. Tout est entre les mains d'une organisation, la CARICOM, qui demande de mettre en place un conseil présidentiel. Là, on vire déjà, on a, juste avant l'émission, c'est là qu'on découvrait que la dame, une dame qui en faisait partie, a été mise de côté. Je me mets à la place de, voilà, du citoyen qui est aujourd'hui à Port-au-Prince, qui regarde ça aller. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on fait là à court terme avant d'imposer ou de venir, pas d'imposer, avant de mettre en place une culture politique sur le long terme? Là, dans l'immédiat, comment tu vois la situation?
Alors, moi, je réponds souvent à cette question en disant, c'est pas un sociologue de donner la solution. D'accord? C'est ma job à moi, c'est de dire, voici l'état des lieux. Après ça, vous devez, ceux qui sont mandatés pour faire des choix, faire des décisions, c'est à vous à faire ça.
Que
pour votre pays.
Que souhaite le haïtien que tu es?
Oui, oui, mais moi, je ne peux pas proposer des solutions parce que je n'ai pas les outils en main. D'accord? Je dis souvent qu'un des premiers problèmes qu'on a en Haïti, c'est qu'il n'y a pas eu de recensement en Haïti. Personne ne sait combien de gens vivent dans ce pays. Alors, si vous ne savez pas combien de gens vivent dans un pays, vous ne savez pas combien de classes que vous devez développer, vous ne savez pas combien d'hôpitaux, de lits, d'hôpitaux que vous devez avoir, vous ne savez pas. Moi, j'ai entendu des gens dire 12 millions, 11 millions, 10 millions, 9 millions, 14 millions, let's go. Tu sais, c'est pas un jeu aux enchères, là. Donc, ça veut dire que la première chose à faire en Haïti, puisque tu me demandes des solutions, la première chose à faire, il faut qu'il y ait un référendum pour savoir combien de gens vivent dans le pays. Et quand on fait un référendum au Canada, on ne mesure pas seulement combien de gens vivent dans le pays, on mesure même combien de têtes cabrites, tu sais, combien de chèvres qu'on a, combien de bœufs, combien de grès, de silos de grains sont remplis pour qu'on sache qui va manger. Et une fois qu'on fait ça, moi comme sociologue, et sûrement Michel les mêmes choses, moi je travaille avec des données qui me disent que je peux faire des prédictions pour 2051. D'accord? Je sais qu'en 2051, combien de classes que je dois avoir. Je sais c'est quoi le taux de natalité. Je sais combien d'enfants il va avoir dans ces années-là. Donc, c'est très important. Et je pense que toute l'idée de dire comment on trouve une solution, ça appartient aux Haïtiens. Autant qu'on dit que la communauté internationale ne doit pas décider pour eux, la diaspora non plus ne doit pas décider pour eux. On doit accompagner cette société quand elle choisira des gens compétents pour l'amener quelque part.
C'est avec cette phrase d'espoir, cette solution d'espoir, je vais le dire comme ça, qu'on va terminer.
De perspective.
De perspective,
l'espoir,
voilà.
L'espoir, c'est autre chose. En espagnol, c'est espérer, c'est attendre.
C'est attendre. D'accord? De perspective. Merci beaucoup, Frédéric Boiron. Merci d'être passé, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler un peu, discuter avec nous de la situation en Haïti. Merci beaucoup, Michel, de ton contextualisation. Et puis, on reste, voilà, on continue à regarder ça. Mon nom est Cyril Ekwala.